Vous avez peur des insectes? Les chenilles, vous trouvez ça dégueu et les fourmis, ça vous donne des frissons? Eh bien, priez de ne pas rencontrer un Weta géant. Le Weta géant est un insecte qui ressemble à un criquet. Mais un gros criquet, du genre pas loin de 20 cm de long. Le plus gros spécimen qu'on a trouvé en décembre dernier pesait 71 grammes, soit le poids de 3 souris. Puis soyons honnêtes, c'était un peu dégueulasse. Et heureusement pour vous, nous sommes à la radio, parce que vous écoutez dans le champ lexical, et cette semaine, on parle du mot insecte. Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on choisit un mot et on vous présente une série de reportages et d'entrevues en lien avec le mot. Et débutons tout de suite avec notre très populaire segment « Mes amis les insectes », le quiz interactif de Dans le champ lexical. Et cette semaine, notre question quiz est la suivante. Si on laisse traîner des bananes sur son comptoir l'été, qu'est-ce qui arrive? Et notre première concurrente au téléphone est Madame Joannie Larue. Bonjour Madame Larue, quelle est votre réponse?
Les bananes deviennent brunes.
Oui, effectivement, mais c'est pas ce qu'on cherche. Avez-vous une autre réponse?
Il va y avoir plein de mouches à frites dans la cuisine.
Oui, vous avez la bonne réponse. Vous gagnez!
Qu'est-ce que je gagne?
Vous gagnez la possibilité de poser la question de votre choix à Madame Stéphanie Boucher, entomologiste et conservatrice du musée d'entomologie Lehman de l'Université McGill.
OK. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les mouches à fruits étaient déjà cachées dans les bananes ou est-ce qu'elles ont été attirées par l'odeur?
Mais alors, Madame Boucher, quelle est votre réponse?
Habituellement, c'est qu'elles ont été attirées par la banane. Donc, souvent, là, les mouches à fruits, c'est peut-être un des insectes que les gens pensent à la génération spontanée, là, que les choses arrivent tout seules. Mais non, c'est ça. C'est vraiment, là, les mouches sont vraiment petites, ces mouches-là, et elles ont un odorat extrêmement puissant. Elles peuvent détecter là, les odeurs à grande distance. Donc, elles peuvent se faufiler très facilement, là, habituellement, par les fenêtres, les petites ouvertures, les moustiquaires. Vous allez avoir ces mouches-là qui vont être attirées, qui vont pondre des œufs sur votre fruit. Et c'est là que le cycle va recommencer, là, qu'on va avoir des petites larves éventuellement, et ensuite, il va avoir la pupe, et ensuite, on va avoir la mouche adulte. Donc, il y a un cycle de vie qui est quand même assez rapide là, chez les mouches à fruits.
De quoi ça se nourrit?
Mouche à fruits, c'est pas un nom qui est très, très approprié, parce que c'est pas des mouches qui vont se nourrir de fruits intacts ou de beaux fruits. Donc, ce sont pas des ennemis en agriculture là, qui vont s'attaquer à une pomme qui est encore après l'arbre. Donc, ils vont vraiment se nourrir, pas du fruit en tant que tel, mais des bactéries qui sont dans le fruit. Donc, c'est pour ça que ces mouches-là sont vraiment attirées par l'odeur des fruits très, très mûrs ou même pourris, c'est encore mieux, parce qu'ils vont se nourrir des bactéries et des micro-organismes qui sont vraiment comme dans le fruit en décomposition. En fait, ils sont attirés même par l'odeur de fermentation. Vous avez sûrement remarqué, là, ceux qui vont pique-niquer à l'extérieur, avoir un verre de vin rouge, là, souvent, on se retrouve avec les mouches dans le vin. Donc, c'est pas juste le fruit, mais c'est l'odeur de fermentation, donc l'alcool. Ils vont vraiment être attirés par ces odeurs-là. Donc, c'est sûr qu'une banane très mûre, là, ça va avoir une odeur qui est très forte. Puis n'importe quel autre fruit, là, une orange qui est en train de pourrir ou qui est très, très mûre, là, ça va vraiment les attirer. Mais normalement, ils vont pondre vraiment dans des fruits qui sont mous et mûrs. Ils vont pas attaquer une pomme intacte. Ces mouches-là, en fait, sont extrêmement importantes aussi dans pour accélérer la décomposition de la matière organique, étant donné là, qu'il y a des centaines de larves qui vont dévorer là, à l'intérieur, qui vont faire des petits tunnels à l'intérieur des fruits pourris. Ça augmente énormément là, la rapidité de la décomposition parce que ça va couper la matière en plusieurs morceaux. Ça va être beaucoup plus accessible pour les autres bactéries et micro-organismes pour aider à la décomposition. Donc, ils vont vraiment accélérer grandement là, la décomposition.
Stéphanie Boucher travaille au musée d'entomologie Lehman, que vous pourrez visiter lors de votre prochain passage à Sainte-Anne-de-Bellevue. Je vous invite maintenant dans le laboratoire de Marc Thérien, chercheur à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal. on y trouve beaucoup, mais là, beaucoup de flacons de verre remplis de petites mouches à fruits, ou plutôt des drosophiles, puisque c'est leur vrai nom. Au fond de chaque éprouvette, il y a un mélange d'agar, une sorte de jello, de maïs en poudre et de mélasse. C'est de la nourriture pour les drosophiles, ou plutôt pour leurs larves.
Je lui montre qu'est-ce qu'a l'air des drosophiles. Et, tu vois, là, ça, c'est un tube qui est frais. Tu vois, la nourriture a été coulée, c'est ça, au fond. Puis là, des mouches ont été mises dedans. Fait qu'il y a un mélange moitié-moitié mâle-femelle. Puis elles vont pondre des œufs à la surface. Ça va prendre environ 2-3 jours. Et l'œuf est en une coquille. Une larve va briser la coquille et va aller commencer à forager et à manger cette nourriture-là.
Il y en a combien à peu près par tube?
Bien, chaque tube va facilement avoir entre 200-500 mouches.
Ça en fait de la mouche.
Oui, oui, oui. Puis tu vois ici, il y a peut-être à peu près le 3000 stocks indépendants.
500 mouches multipliées par 3000 tubes, ça fait 1,5 million de drosophiles. Et qu'est-ce que l'équipe de Marc Thérien peut bien faire avec 1,5 million de mouches à fruits?
Mon laboratoire s'intéresse aux mécanismes qui donnent lieu au cancer. Puis, on a trouvé plusieurs gènes qui sont impliqués lorsque déréglés dans le cancer chez l'homme. Mais ces gènes en question fonctionnent de la même façon chez la drosophile. À l'aide de la mouche, on essaie de comprendre comment ces gènes, quotidiennement, qu'est-ce qu'ils font vraiment. Et on a trouvé des choses. Et ces choses, maintenant, on essaie de les appliquer dans les cellules humaines, puis de développer des médicaments pour aller contrer l'action de gènes déréglés qui donnent le cancer. Et ces découvertes ont été faites à la base, à l'aide de la drosophile dans mon laboratoire.
Et donc, si jamais un jour on réussit à battre le cancer, on va en devoir une à nos mouches à fruits.
Oui, ça c'est clair.
En biologie, les chercheurs utilisent des organismes modèles pour étudier des phénomènes de base et répondre à certaines questions. Et la drosophile est un organisme modèle très répandu. Le génome du drosophile est très compact, c'est-à-dire qu'il y a moins de gènes que dans une souris, un lapin ou un humain. Pour comprendre le fonctionnement de certains phénomènes génétiques, ben c'est plus facile si on limite la grandeur du terrain de jeu et le nombre de joueurs.
Les mouches, évidemment, ont des poils, et ces poils nous renseignent, ce sont des poils qu'on appelle mécanosensoriels, ils sont tous reliés à des neurones. En fait, il y a une variété de gènes qui sont impliqués dans ce processus, puis on sait par exemple que pour écouter, pour entendre, on a des poils sensoriels dans nos oreilles qui sont tous alignés de la même façon. C'est très, très important. Puis il y a des gens qui ont des mutations dans ces gènes qui font que leurs poils sont désalignés, peuvent plus entendre. Okay? Ce sont les mêmes gènes chez la drosophile qui fait que tous ces poils sont alignés dans le même sens. Puis ça a été trouvé grâce à des drosophiles.
Et c'est le même principe quand on étudie le comportement des cellules. La drosophile est donc un organisme parfait pour tester certaines théories sur le cancer, par exemple. En prime, c'est une bibitte qui se multiplie abondamment et à un rythme très très rapide. En quelques jours, on peut avoir la descendance d'une mouche à fruits dont on aurait manipulé les gènes, pour voir si ça se transmet, si ça se modifie ou si ça reste pareil. Et c'est pour toutes ces raisons que la drosophile est l'ami des généticiens et des biologistes depuis 1910.
Il y a ça plusieurs décennies, les premiers généticiens de la drosophile qui l'utilisaient comme outil regardaient au départ ce qu'on appelle l'apparence des mouches, l'apparence externe, l'apparence de leurs yeux. Est-ce qu'ils étaient bien formés, mal formés, leurs ailes, leurs pattes? Est-ce qu'elles se développaient à un taux normal, donc 2 semaines, ou ça prenait plus de temps, moins de temps? Donc, des phénomènes qu'on peut dire macroscopiques, qu'on peut voir sous un simple microscope de faible résolution, on était capable de voir ces phénomènes-là. Je vous dirais qu'on utilise encore, évidemment, ces manifestations externes, mais les méthodes se sont raffinées. Maintenant, on va voir à l'intérieur des mouches elles-mêmes. On va regarder leur tissu, s'ils se forment bien. On va regarder même leurs cellules. Est-ce qu'elles se divisent à un taux normal? Est-ce qu'elles se différencient de façon normale? Puis, ce faisant, on est capable de mettre le doigt sur telle fonction de tel gène.
Est-ce que vous les achetez quelque part ou vous faites comme chez nous à la maison, vous mettez une banane sur le comptoir et vous attendez?
Non. les drosophiles, on a à travers les différents centres de recherche, il y a à travers le monde ce qu'on appelle des banques de drosophiles qui contiennent toutes les collections de mutants inimaginables. Donc, il y en a évidemment aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a en Asie. Et bon, il y a une certaine complémentarité entre ces différentes banques. Donc, si on a besoin de telle ou telle souche mutante ou telle variété, eh bien, par courriel, on peut les contacter et ces organismes vont nous envoyer les drosophiles par la poste, par
vivant.
Évidemment, vivant, par courrier prioritaire, et on reçoit ça et on les met en culture. Et c'est sûr que nous-mêmes, dans les laboratoires drosophiles, dans nos propres laboratoires, on génère aussi des mutants ou des mouches qu'on dit transgéniques, dans lesquelles on a inséré et exprimé certains gènes. Donc, on fabrique nos propres variétés de mouches. Et bon, un laboratoire, en moyenne, va facilement maintenir entre 500 et peut-être 5000 mouches ou souches différentes. C'est là où la logistique devient très importante. Pour l'instant, les drosophiles, on doit perpétuellement les propager. On ne peut pas dire, ben voilà, on les congèle et on les réveillera un peu plus tard. Hein, donc, à tous les mois, ni plus ni moins, on doit, c'est ça, les perpétuer dans des nouveaux tubes, et ainsi de suite.
Il y a donc, un peu partout dans le monde, des chercheurs qui doivent prendre de leur temps pour faire reproduire des mouches à fruits dans des petits flacons. C'est quand même un peu saugrenu quand on y pense. Mais ça le devient un peu moins quand on sait que plusieurs de ces chercheurs ont gagné un prix Nobel. En 2011, par exemple, le prix Nobel de médecine a été remis à Jules Hoffman pour ses recherches sur le système immunitaire. Thomas Morgan, le premier à utiliser des drosophiles, a aussi obtenu un prix Nobel pour ses recherches sur l'hérédité, tout comme certains de ses élèves.
Dont Hermann Müller s'est aperçu, en fait, ça fait quand même un certain temps maintenant, s'est aperçu grâce à la drosophile que les rayons X, donc les agents radioactifs, sont dangereux. À l'époque, on n'était pas, c'était pas très clair pourquoi, mais on s'est aperçu que, et puis là on le sait bien maintenant, c'est grâce à une drosophile, que ces agents physiques causent des dommages à l'ADN, vont introduire des mutations, des cassures, évidemment, qui sont très, très néfastes, qui conduisent très souvent au cancer.
C'est assez important à savoir aussi.
Oui, tout à fait. D'autres grandes réalisations, puis utilisation de la drosophile, entre autres, c'est pour comprendre des problèmes auxquels nos populations vieillissantes font de plus en plus mises en présence, qui est les problèmes liés à la neurodégénérescence, donc des maladies comme l'Alzheimer ou le Parkinson. On utilise abondamment la drosophile pour comprendre ces maladies, parce que la dégénérescence neuronale peut aussi être étudiée grâce à une drosophile. On utilise aussi la drosophile pour comprendre la dépendance à des drogues, que ce soit à la cocaïne, que ce soit à l'alcool, on s'aperçoit que les drosophiles font aussi face à ces problèmes-là. Elles peuvent devenir dépendantes de ces agents et on s'est aperçu que les gènes impliqués dans cette dépendance sont les mêmes que chez l'être humain.
La petite mouche à fruits.
Toujours avec la mouche à fruits.
Alors la prochaine fois qu'il y aura des mouches à fruits dans votre cuisine, ben pensez à leur dire un petit merci avant de les écraser. Thank you. Dans le royaume des insectes, il y en a des plus jolis que d'autres. Les papillons, par exemple, tombent certainement dans la catégorie « jolis insectes ». C'est probablement la grâce et la légèreté de leur vol, ainsi que l'extraordinaire variété de leurs coloris qui ont séduit et qui séduisent encore. Mais du moins sûrement plus qu'une tarentule ou un phasme. Hein, le phasme, là, l'insecte qui émite une branche. Parce qu'un phasme, c'est peut-être bien beau, mais c'est un petit peu difficile à trouver. Dans l'Antiquité, on dessinait déjà des papillons, on en a retrouvé des traces. On peut donc penser que les papillons inspiraient les artistes, mais ils évoquaient aussi toute une dimension spirituelle et mythique comme symbole de la métamorphose, la renaissance, l'amour, l'espoir et la liberté. D'ailleurs, même si ça ferait plus très viril aujourd'hui, plusieurs peuples guerriers ont adopté le papillon comme symbole au cours de l'histoire. Des talismans en forme de papillons ont été trouvés chez plusieurs civilisations. Les mythes et croyances reliées aux papillons sont donc très nombreux et certains persistent encore aujourd'hui. Par exemple, selon des tribus indigènes d'Amazonie, le magnifique papillon bleu Morpho incarnerait les esprits maléfiques de la forêt. On pense que si on le suit, il est capable de nous perdre à tout jamais dans la jungle. Bon, là, c'est sûr, vous allez me dire que c'est sûr que si on suit un papillon sans regarder où on va, ça se peut qu'on ait un petit peu de difficulté à rentrer à la maison après. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que plusieurs espèces de morphos ont un vol particulier, rapide, et que le battement saccadé de leurs ailes leur permettent d'apparaître et de disparaître furtivement dans la forêt. Donc, on court après lui, puis à un moment donné, ben, on le perd de vue, on est perdu. On trouve au Mexique une certaine mythologie des papillons, une mythologie que l'on peut faire remonter jusqu'aux Aztèques. Chaque printemps, à l'occasion de la fête des fleurs, on coiffe une jeune fille choisie de longues plumes imitant les antennes d'un papillon. C'est une tradition qui s'inspire du papillon Multicodata, qui est associé à la déesse des fleurs, de l'amour et des arts. Chez les Aztèques, on associait le papillon Amadrias au tonnerre à cause du bruit qu'il émet. Alors que les papillons ont l'habitude d'être très silencieux, le Amadrias émet plutôt un bruit crépitant comme un genre de craquement lorsqu'il défend son territoire. Et tout ça, ben, c'est sans parler du plus moderne nu papillon en papillon de basse-montagne, ni de celui de Gilles Goujon.
Avoir parcouru la métamorphose de Kafka, les fourmis de Bernard Werber et même les plaies d'Égypte, j'ai commencé à avoir l'impression que ça me piquait un peu partout. Mais je n'ai pas lâché, j'ai continué les recherches sur le thème insectes jusqu'à ce qu'une amie me fasse découvrir un petit bijou de livre que je ne connaissais pas. Il s'agit de Scènes de la vie privée et publique des animaux, paru en 1841. Ce recueil est en deux tomes et contient de courts textes faits dans différents styles, que ce soit des articles, des récits, et de grands écrivains français comme Georges Sand et Honoré de Balzac y ont collaboré. Contrairement aux fables de La Fontaine qui visent surtout à faire la leçon, ce livre-là constitue plutôt une étude des caractères humains faite par l'entremise d'un animal ou d'un insecte. Bref, c'est de l'anthropomorphisme. Alors, on prête aux bêtes des pensées intelligentes, bien articulées et d'une grande justesse, et on va même leur conférer des qualités humaines, bien sûr, comme le fait d'être fougueux ou fin stratège. C'est ce qu'on peut découvrir dans l'extrait que je m'apprête à vous lire, qui est tiré du texte « Encore une révolution », écrit par Pierre-Jules Hetzel. Là-dedans, on fait le récit détaillé d'une bataille où s'opposent différentes sortes d'insectes. Et comme vous allez le voir, la description, qui est remplie de petites touches d'humour, se révèle enlevante, épique et même extrêmement dramatique. Au moment où le triomphe nous paraissait le plus certain, la face des choses a changé complètement et la fortune s'est déclarée contre nous. Pouvions-nous prévoir un pareil désastre après avoir vu partir notre belle armée équipée avec tant de soins et si bien disposée? Quelques mouches savantes, dont les études avaient été dirigées vers l'art de la mécanique, pour lequel on sait que les mouches ont d'étonnantes dispositions, commandaient l'artillerie. Les plus robustes traînaient des munitions de guerre dans des petits caissons faits de gousses de pois secs. Et d'autres portaient sur l'épaule de petits mousquets faits avec la centième partie d'un fétu de paille. Mais qu'elle tenait d'un air si martial que c'était plaisir de voir ces braves petites mouches voler à la gloire, comme s'il se fût agi d'aller à la picorée d'une fleur. Les deux armées se sont rencontrées sur les galeries vitrées qui couvrent les serres chaudes. Dans cette fatale journée, une circonstance fortuite fit perdre au prince Bourdon, général en chef de notre armée ailée, le fruit d'une des plus grandes manœuvres qui ait jamais été essayée. Il avait partagé son armée en trois masses. La droite, commandée par lui-même, entourée de son brillant état-major, où l'on remarquait parmi les colonels des papillons le vénérable Priam, l'Apollon, le Pandjour, le Cupidon, était forte de 7 régiments d'infanterie légère. Les sauterelles, les criquets, les perce-oreilles, les psocs, les perles et les éphémères, tous pleins d'ardeur. Et la gauche, commandée par l'urocère géant, se composait des régiments des capricornes, des troglodytes, des gribouris, des ténébrions et des charançons. La droite avait à combattre la gauche des ennemis commandés par le chef féroce de la famille des coléoptères, le scarabée Hercule, suivi des phalanges redoutables des Goliaths, des boucliers, des hannetons, des cousins, des bombardiers et des taupins. Que pouvaient faire les troupes légères du prince Bourdon contre cette impénétrable infanterie? Sa gauche était opposée aux sections des andrennes mineuses, coupeuses et charpentières, et à la corporation des rhinocéros, qui, n'ayant qu'une corne, obéissent naturellement au cerf-volant, qui en a deux. Son centre avait pour adversaire la foule immense des moucherons, des pucerons, des teignes et des insectes à 240 pattes. Le prince Bourdon avait espéré que le scarabée Hercule commencerait l'attaque et ferait traverser à ses lourdes troupes la distance qui séparait les deux armées. Mais le scarabée Hercule, auquel un faux Bourdon déserteur avait dévoilé les projets du prince, défendit au sien de bouger et fit serrer les rangs et ployer les ailes, résolu d'attendre le choc sans l'aller chercher. Les enseignes flottaient au vent, le soleil dardait sur les étincelantes armures des insectes rangés en bataille. Des cigales, dont on vante avec raison l'aptitude pour la musique, placées sur les limites des deux camps, à l'extrémité des deux paratonnerres, soufflaient de toute la force de leurs poumons dans des petites flûtes à l'oignon, et cette musique guerrière portait à son comble l'ardeur de nos troupes. De temps en temps, une graine de balsamine lancée du haut des airs avec beaucoup de précision, par des cerfs-volants fort adroits dans ce genre d'exercice, venait éclater dans nos rangs et y laissait des traces sanglantes. L'armée ennemie ne bougeait pas. L'impatience gagnait nos braves cohortes. « Dépêchons !» nous disaient les éphémères, qui déjà avaient eu, presque tous, le temps de blanchir sous les armes. « La vie est courte !» Bientôt, emportés par leur fougue, et sans écouter les menaces ni les prières du seigneur Bourdon, ils volèrent les premiers à l'ennemi, et firent ainsi tourner contre eux-mêmes le plan si bien conçu par leur habile général, car l'armée tout entière les suivit. En effet, chacun ayant quitté son rang pour courir selon ses forces, les nôtres arrivèrent en désordre et tout essoufflés devant le front ennemi, qui s'ouvrit tout à coup et laissa voir les gueules menaçantes d'une double rangée de canons d'une invention nouvelle. Ces canons étaient si petits qu'on les voyait à peine, et nous ne savons comment on avait pu les faire. Ils étaient charmants, mais ils tuaient beaucoup de monde. Pendant plus d'un quart d'heure, ils écrasèrent nos troupes. Bientôt, on en vint à combattre à l'arme blanche. On ne saurait croire combien sont terribles et acharnées ces luttes d'insecte à insecte. Tout devenait un instrument de mort entre les pattes des combattants furieux. Les feuilles de cyprès se changeaient en lances meurtrières. Les moindres brins de bois sec étaient autant de massues, et on entendait au loin le choc retentissant des cuirasses contre les cuirasses, des corselets contre les corselets et des écailles fracassées. Des ailes brisées, des membres épars, des petites montagnes de morts et de mourants, du sang partout. Tel est l'horrible spectacle que présentait cette scène de carnage. L'aile droite plia la première. Le pied ayant glissé au colonel des hannetons, un des plus braves officiers de l'armée, dans un effort qu'il faisait pour dégager un peloton qui s'était laissé entourer, il roula dans la gouttière d'une façon si fâcheuse qu'il tomba sur le dos, ce qui est le plus grand malheur qui puisse arriver à un hanneton. Une guêpe de l'armée ennemie n'eut pas honte d'abuser de la position d'un adversaire sans défense et elle lui passa son dard au travers du corps.
que c'est comme un oiseau mort. Mais comme une plume, ça ici, là, est-ce que c'est une plume ou c'est comme l'aile, littéralement? C'est un oiseau complet.
OK, qu'est-ce que tu veux? Tu viens voir comment ça se fait? Oui.
Je me trouve dans la boutique Salmon Nature avec le copropriétaire Paul Leblanc, moucheur depuis environ 35 ans. Et je m'apprête à assister à la création d'une mouche. Vous écoutez dans le champ lexical et cette semaine, on parle d'insectes. Petit outil pour serrer, comme un petit étau.
Un étau, c'est exactement ça. Un porte-bobine. Vous savez quoi on porte la bobine? OK.
On enroule le fil autour de l'hameçon.
Je vais juste te montrer, faire un Willy Bugger, quelque chose qui est bien ordinaire quand même. Là.
Vous venez de couper le début de la plume, donc juste pour garder les poils de fin.
Partie,
Et voilà, en 3 minutes et quart.
OK.
J'ai une petite mouche. C'est quoi la différence entre la pêche à la mouche et pas la pêche à la mouche?
Bon, bien, il y a la pêche commerciale là, qu'on fait en mer. Ça n'a pas de rapport. Nous, c'est la pêche sportive. Premièrement, le premier rapport. Deuxièmement, dans la pêche sportive, il y a différents types de pêche. Par contre, la pêche à la mouche, c'est la pêche la plus ancienne qui existe.
Ça s'est fait. De
quand? Dans le temps des pharaons, pêcher les saumons et avec une mouche. On peut voir sur les aréoglyphes. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a commencé dans les années 1400 avec une religieuse sur le bord d'un ruisseau qui a vu une truite gober une plume, je crois, si je me souviens bien, de canard. Puis à partir de ce moment-là, elle a placé la plume sur l'hameçon et c'est devenu la mouche qu'on connaît aujourd'hui. On essaye d'imiter les insectes à partir, les insectes aquatiques, parce que ça vient de l'eau, les insectes qu'on utilise, et on les imite, au début, on les imitait grossièrement, mais aujourd'hui, ça peut venir jusqu'à la mouche exacte.
Si on parle des pharaons et de la mouche, là, c'était littéralement une vraie mouche, non?
Non, c'était une mouche. C'est pour imiter une chose qui vole. Okay. Alors, nous, les pêcheurs, qu'est-ce que c'est que c'est? On préconise toujours la grosseur et la couleur de l'insecte qu'on veut imiter. Ça, c'est le premier critère. Et il y a les mouches qui sont mouches sèches, les mouches qui sont sur l'eau. Il y a les mouches qui vivent dans l'eau.
Le nœud le plus important pour le pêcheur à la mouche, c'est le nœud qui relie l'avançon à la mouche. Le nœud d'anguille double.
Donc, mon interlocuteur, ici, Paul Leblanc, sur YouTube, nous explique comment attacher une mouche. Alors, si ça s'est passé un petit peu vite pour vous tantôt, alors qu'il me montrait comment ça se passe, parce que je vous avoue que pour moi aussi, ça s'est passé très vite, eh bien, vous pouvez attraper toutes ces techniques sur le web.
On tourne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fois. On passe
le pouce. Il y a différentes sortes de mouches.
Exactement.
Dépendamment du poisson qu'on veut prendre.
Oui.
Quelle mouche, disons, est la plus générique?
Le modeler minot, qui représente un petit poisson, un navelin. Et lui vit dans le lac, les rivières, et il a différentes couleurs. Donc, une mouche, c'est pas seulement qu'une mouche. Il faut faire attention, là. C'est là que ça se complique. Parce qu'une mouche peut imiter une grenouille, elle peut imiter une souris, elle peut imiter... un petit poisson ou un papillon.
Qu'est-ce que fait un pêcheur plus expérimenté qu'un néo-pêcheur?
Bon, il va pêcher plus dans le sens que c'est d'avoir un contact avec la nature. Et il y a un peu la science de l'entomologie. Il va étudier les insectes. Il va fabriquer lui-même ses mouches. Comme vous voyez, les poils, tout ce qui ça prend.
Oui, parlons-en. Là, je suis un peu dépassée par tout le matériel qu'il y a ici. Ça n'a pas de bon sens. Il y a tellement de sortes de plumes. Disons, commençons par les jaunes rayés, là, disons, que je vois là. Pourquoi est-ce qu'il y en a des jaunes rayés, des oranges rayés, des verts rayés?
Ah, il y a des types. On invente constamment des nouvelles mouches. Pour inventer une nouvelle mouche, on aura des nouveaux matériaux parce que déjà, tout a déjà été fait. Et même aujourd'hui, il y a énormément de produits synthétiques et il y a des pêcheurs qui sont divisés, pêcheurs à mouche qui sont divisés entre les produits naturels et les produits synthétiques, parce que les produits synthétiques, quand on perd la mouche, ça reste dans l'eau, tandis que les produits naturels, comme les plumes, les poils, ça c'est biodégradable. Aujourd'hui, on a de la difficulté aussi dans nos produits. On avait, il y a de ça peut-être 20 ans, il y a des gens, des pêcheurs qui ont imaginé qu'ils pouvaient génétiquement élever des coques pour la pêche. Les Français, eux, ils ont un coq de pêche. Ils prenaient des plumes, prélevaient des plumes pour faire des mouches pour pêcher. Les Américains, ça va pas assez vite pour eux autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, génétiquement, on va, sélectionner des oiseaux. Et les oiseaux qui ont les plumes les plus longues, on va les garder, les coques et les plumes les plus longues, on va les garder pour les reproduire. On est arrivé avec des plumes dans les dernières années qui avaient, mettons, 20 pouces de long et qui étaient toutes la même grosseur. Mais attention, il y a un gros problème. L'an passé, au mois de mars, si je me souviens bien, c'est American Eagle qui a eu lieu, si je me souviens bien, à Hawaii. Il y a un des types qui est juge, un acteur en fait, qui a mis ça dans ses cheveux.
OK.
Je ne sais pas le nom, là, mais je ne peux pas prononcer le nom. Mais c'est facile
clairement une plume pour faire des mouches.
Un hackle, oui. Et là, présentement, on n'a plus de hackle. Toutes les hackles ont été vendues, ça se vendait sur Internet. On n'en a plus, on a encore beaucoup, là. Mais les plus beaux grades, il n'y en a plus, parce qu'il y a des capes qu'on vendait 30 $ qui se sont vendus 700-800 $ sur eBay, aux enchères. Et tout le monde veut se mettre des plumes dans les cheveux. Et la mode rentre ici au Québec lentement. Et déjà, les gens ont commencé à utiliser d'autres plumes pour se faire des bijoux, tout ça.
Cette semaine, ici Sonny Duval. En cette fin d'hiver, j'ai si peur, car je sais que c'est la fin de cette saison dont je me délecte. Car d'octobre à avril, je ne pense pas aux insectes. Ce compte à rebours donne froid dans le dos. En attendant, je mange des cigalettes de sarrasin, des œufs à la coque relativement mauvais. Et nous grillons des cigarettes en attendant que quelqu'un donne un Oscar à Béatrice. Merci.
No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito. Just let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home?
Tout le monde a déjà entendu « No me moleste mosquito » ou « Ne me dérange pas moustique » si on traduit de l'espagnol, chanté par Joe Dassin. Mais on connaît moins la version originale qui a été composée par The Doors en 1972. Et bon, il y a peut-être une raison pour ça, parce qu'avec ses interminables solos et l'absence de Jim Morrison, qui, non, n'était pas parti s'acheter un burrito, mais qui était mort depuis un an, ben on peut pas dire que c'est la meilleure du groupe américain. Et pour rester dans le registre des petits insectes fatigants, la Française Vanessa Paradis. En 1987, à l'âge de 16 ans, soit bien avant de rencontrer le beau Johnny Depp, elle enregistre la chanson « Mosquito ». Et selon elle, qu'est-ce que ça fait dans la vie, un mosquito? Ben en gros, c'est un méchant hélicoptère qui pique dans la chair. Puis pas de discrimination, là. Ces petits indésirables s'attaquent à tout le monde. Les gentils comme les salauds, les bronzés comme les palots, et les chiens comme les oiseaux. Dans sa chanson « Fourmis », Jean Leloup nous parle d'un petit monde réglé au quart de tour où il y a des autoroutes de fourmis, des ascenseurs de fourmis, puis des échangeurs de fourmis. Et puis devinez quoi, même ces insectes rêvent, des rêves dans lesquels les humains sont étrangement très petits. On se demande bien si le Québécois David Jalbert sait vraiment parler aux filles quand il compare une relation potentielle à celle entre deux blattes dans sa chanson « Deux coquerelles ». Et pourquoi cet insecte franchement dégueulasse? Ben c'est parce qu'ensemble, ils vont squatter tous les motels de Sainte-Agathe à Montmagny, puis déjeuner toujours au lit. Si on vous dit Coma, groupe québécois, 1996, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous répondez non, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est un groupe qui a pas mal connu un seul succès, si on peut dire, avec la chanson « Une araignée au plafond ». Bien sûr, il n'est pas tellement question ici d'un vrai arachnide qui aurait tissé sa toile dans un coin du salon, mais plutôt d'une personne un peu dingo, comme dans l'expression consacrée. Mais s'il y a un insecte qui semble particulièrement inspirer les chanteurs, c'est bien le joli papillon. On pense entre autres à la pièce « Les papillons » du français Thomas Fersen.
Les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons.
Ou à sa version nocturne avec « Papillons de nuit » chanté par France Gall en 1988.
Comme une étoile amarante, comme un papillon de nuit, c'est la lumière qui m'attire.
Sans oublier Les Papillons Noirs, une chanson de Serge Gainsbourg qui date de 1966 et qu'il a enregistrée en version solo et duo avec Michel Arnaud.
La nuit, tous les chagrins se grivent, de tout son cœur on aimerait que disparaissent à jamais. Les papillons noirs, les papillons noirs, les papillons noirs.
Dans le champ lexical se penche aujourd'hui sur une version chantée, si on peut dire, d'une pièce de répertoire symphonique. Vous allez voir que c'est assez spécial, merci. En 1899, le compositeur russe Nikolai Rimsky-Korsakov compose un très court interlude musical qui s'appelle « Le vol du bourdon » dans son opéra « Tsar Saltan ». Mais un peu plus de 100 ans plus tard, ça reste toujours un extrait très connu et reconnaissable d'entre tous, entre autres pour souligner des scènes de course dans des films et des dessins animés. Le violoncelliste américain Yo-Yo Ma et le chanteur Bobby McFerrin, le même qui nous a donné « Don't Worry, Be Happy », en ont fait une version surprenante en 1991 dans laquelle McFerrin réussit à fredonner cette mélodie très rapide, comme vous allez voir. Décidément, c'est à se demander « Quelle mouche l'a piqué ?»
Cette semaine, dans le Vox Pop, on parle de bibittes.
Les bibittes.
Les bibittes.
Les bibittes, non. Quelle sorte de bibittes tu veux parler? Mais regarde, non, j'ai pas peur de ça.
Ah, oh, ben, les coquerelles, les marigouins, les puces, j'aime pas ça. Ben, tout, en fait, tout ce que bibittes.
Ben, il y en a des bibittes, c'est sûr, des maringouins. Ça, je suis allergique parce que je viens tout le temps enfler. Mais, ouais, ça, les maringouins, j'aime pas ça.
Qu'est-ce que je fais? Je crie, j'appelle quelqu'un.
Ben moi, j'avais cette petite bébite des fois dans mon logement, donc j'avais loué. Puis là, j'aimais vraiment pas ça. Fait que j'ai déménagé.
Des bébites? Oui.
Lesquelles?
Des araignées, puis des centipèdes. Des petits centipèdes de maison, là, dégueulasses. Ils viennent dans mon lit, en plus, l'autre jour. C'est dégueulasse. Non, ouais, c'est ma blonde qui a donné une claque dessus. Elle s'en allait vers mon visage, mais là, on a vu, elle a donné une claque.
Fait que ta blonde, as-tu une bébite pour toi?
Ouais.
Hein? Oh, tu veux dire les longues avec que j'ai vu ça une fois? Écœurant. Et ça va vite, ça, hein?
Oh, mon Dieu, même pas capable, je te le dis. J'ai des dents de ça, c'est terrible. Là, tu peux sortir, je suis pas capable. Même que je voudrais, je te le dis. C'est mettons, là, va dire que je verrais une
pas le fun de bébite.
Ben non, dans la chambre de bain, là, je ferme la porte de la chambre de bain, puis là, je crie, puis quelqu'un va y aller, pas moi.
Ben, c'est ça, des petits papillons, je regarde, il y en a des beaux. Mais j'y tue pas non plus. Je n'en ai pas dans la maison.
Mais ça monte en haut pour aller chercher le balai pour les croiser.
Même pas, moi, j'ai peur qu'elle tombe sur moi.
Mais là, on pogne dans le balai.
Ah, ben là, même, j'ai peur de la manquer. Même pas. Tu le dis, j'ai une folie de ça.
Non, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui neige, j'ai les floches.
Ah, vous les flochez?
Ah, oh, oui, j'ai les floches en toilette.
Les pépites de sang, là, qu'est-ce qu'ils disent? Des punaises, là? Hé, hey, tabarnouche, je voudrais pas j'aille ça chez nous, esprit. Puis il y a un appartement, là, pas loin de ce que je reste. Ils sont tous infectés de ça. Sacrifice, hein, je me colle plus ces autres, esprit. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, hey, ben trop peu, esprit. Les araignées, moi, je suis pas content.
Moi, j'ai des chats, puis un moment donné, la canne avait été revirée à l'envers, puis j'avais pas vu, puis... J'allais vérifier ça. Il y avait des verbes là dedans. Je jette plus sur de manger là, tout ça là.
D'habitude, c'est quand t'as pas sorti tes poubelles en été, là. Mais à part de ça, non. C'est pas parce que ça fait peur, mais on n'en veut pas.
Ben là, c'est parce que j'avais ouvert une canne, puis elle avait reviré à terre à l'envers. C'est parce qu'elle a dû rester là deux, trois jours, là. Je sais pas, moi.
J'essaie de tuer ou de mettre du stuff pour m'en débarrasser. Là, c'est prêt pour ces bêtes là.
J'ai pas peur de ça avec du stuff. Et du stuff chez nous, du raid, là, on met dans le bois des portes, c'est d'affaires. Ça va bien. Et pour les punaises, là, ben, je mets de l'huile à lampe tout autour de ma porte.
Aux animaux, ben, je suis habitué, mais pas aux bébites.
Ben moi, je suis un gars de forêt, fait que je dois toujours manger des grosses araignées, pas des araignées, mais des grosses fourmis. On avait faim, on a mangé. Ben oui.
Cuite?
Non, direct demain. Ça goûte le pop-corn.
Si tu avais attrapé la mouche, tu n'aurais pas à lire ceci. Je sais que tu ne l'attraperas pas maintenant. C'est sans espoir. Il est des choses auxquelles l'homme ne devrait jamais toucher. Il faut maintenant que je détruise tout, toute trace de mon travail, et même moi. Personne ne doit savoir ce que j'ai trouvé. C'est trop dangereux. J'ai imaginé un moyen. Ce sera difficile, et tu devras m'aider. André! Nous trouverons cette mouche demain, j'en suis persuadée. Sans ma volonté s'en aller, déjà épuisée. Très difficile contrôler les pensées. Oh chérie, je t'aime, j'ai tellement besoin de toi. Je t'en prie, fais-le, il faut que ça réussisse. Vite mon chéri, ça va marcher.
Quand on parle du film La Mouche, la majorité des gens ont en tête le film de David Cronenberg tourné en 1986 et mettant en vedette Jeff Goldblum. Mais celui-ci était en fait une reprise d'un film tourné en 1958 et mettant en vedette Vincent Price, un très bon film. L'histoire de départ des deux versions est la même. Un scientifique invente une machine à téléporter. Lorsqu'il se téléporte lui-même, une mouche entre dans la machine et l'homme et l'insecte se fusionnent. Mais dans le traitement, les deux films sont radicalement différents. Celui de 1986 repose presque en entier sur la transformation lente et dégoûtante du personnage principal en mouche. Dans le film de 1958, les scientifiques, dont la tête est maintenant celle d'une mouche, passent l'essentiel de son temps caché sous un drap noir, incapable de parler. Et quand il révèle son visage à la femme qu'il aime, ben...
Ça va aller maintenant! Je suis sûre que ça a marché!
Ok, une petite mise en contexte. On assiste ici à la naissance de la célèbre, chez un public d'un certain âge, Maya l'abeille. Elle est présentement dans son alvéole et cherche à sortir. Et deux abeilles sont là pour l'accueillir. En anglais, il y a une expression qui dit « busy as a bee ». Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elles sont deux nounous par petite abeille. Et vous vous demandez probablement pourquoi elle s'appelle Maya? Eh bien...
Alors, il n'y a personne?
Nous sommes là, prêtes à t'accueillir. Dépêche-toi, ma petite Maya, tu es la dernière.
D'après vous, ce serait moi, cette Maya? Si c'est moi, pourquoi vous m'avez donné ce nom?
Eh bien, c'est parce que tout le monde doit avoir un nom. C'est pour ça.
Ah oui? Toi aussi, t'as un nom?
Oui, je suis Mademoiselle Cassandre. Je m'occuperai de ton éducation. Allez, viens.
Je suis contente de sortir, j'ai tout fait. Oh,
c'est de ta faute. Il y a longtemps que les autres abeilles sont sorties. Pourquoi est-ce que tu es en retard?
Parce que je faisais un bon rêve.
Quoi? Mais une abeille qui rêve, on n'a jamais vu ça.
Mais une abeille qui parle, c'est normal. Dans le champ lexical est une réalisation de Mathieu Charlebois et Joanie Larue. On travaillait dans notre fourmilière cette semaine. Annie Rossano au Vox Pop, Pierre Duchesneau aux chansons thématiques, Sonny Duval à la chanson originale, Lisanne Rault-Leblanc à la lecture et à la voix d'or, et Dominique Charron à la recherche. On vous remercie bien d'avoir été des nôtres cette semaine. Et pour vous montrer notre gratitude, on va vous récompenser la semaine prochaine, parce que dans l'émission, on va tourner autour du mot « récompense ». Thank you.
Hey, ça a vraiment pas rapport, mais il nous reste encore du temps. Alors, avez-vous déjà entendu le thème de Maya l'abeille en russe?